Bonsoir à Thierry.
Ce soir, nous recevons donc le père Henri de Gélis, qui est prêtre à l'Emmanuel, directeur au séminaire de Paris, et professeur Robert Adam, des collègues du père. Il a notamment publié sur l'herméneutique exégétique et biblique, et il a soutenu son doctorat de théologie en 2018, donc c'est tout frais. Et ce soir, il va nous parler des charismes chez Saint Paul.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci, merci. Donc, voilà, le projet, enfin, le contrat, c'est effectivement que je vous parle des charismes chez Saint Paul. Est-ce que vous savez ce que signifie le mot charisme, déjà? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Dans Saint Paul, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez d'où? Vous savez pas du tout? Charisme. Donc, charisme s'écrit avec C-H-A-R-I-S-M-A, en grec, charisma. Ça vient d'un mot grec qui veut dire aussi charis, donc la charité, la grâce aussi. Ça ne veut pas dire charité, ça veut dire grâce, pardon. Donc charisme, grâce. Ça se traduit tout simplement en français par, on pourrait dire, don spirituel, par, qu'est-ce que j'ai mis ? Don gratuit, par, voilà, par ce genre de choses-là. Et Saint Paul, enfin, dans le Nouveau Testament, quand on regarde, vous savez, il y a des bouquins qui s'appellent des concordances. Donc, on regarde le nombre de fois où le mot charisme apparaît dans le Nouveau Testament. Ça apparaît 16 fois, et sur les 16 fois, il y en a 15 chez Saint Paul. Vous savez, dans le Nouveau Testament, entre guillemets, le spécialiste du charisme, c'est effectivement chez Saint Paul. Et c'est majoritairement dans deux écrits, l'Épître aux Corinthiens. Voilà, un écrit, l'Épître aux Corinthiens. Mais on en parle aussi un peu dans l'Épître aux Romains. Alors, je voudrais d'abord citer trois textes de Saint Paul que je vais vous lire. À partir de ces trois textes, je vais faire trois observations et je vais aboutir à trois questions. Voilà. Et puis après, j'essaierai de reprendre les questions les unes à la suite des autres. Donc le premier texte que je voudrais vous citer, c'est dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 12, les versets 4 à 11. Il y a diversité de charisme, mais c'est le même esprit. Diversité de ministère, mais c'est le même Seigneur. Diversité de mode d'action, mais c'est le même Dieu qui en tous met tout en œuvre. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. À l'un, par l'Esprit, est donnée une parole de sagesse. À l'autre, une parole de science selon le même Esprit. À un autre, une foi dans le même Esprit. Tandis qu'à un autre, des charismes de guérison dans l'unique Esprit. À un autre, des charismes de miracles. Enfin, le grec dit des dons de puissance. C'est difficile, c'est charismes de puissance. C'est difficile à traduire, donc on imagine que c'est une manière de faire des miracles. À un autre, un don de prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, des sortes de langues. À un autre, une interprétation de ces langues. Cependant, tout cela est mis en œuvre par l'unique et le même esprit, en le répartissant en propre pour chacun selon sa décision. À ce texte-là, on peut rajouter un autre texte, qui est quelques versets plus loin, chapitre 12, toujours verset 28. Et ceux, je cite, « Et ceux que Dieu a disposés dans l'Église sont premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement des hommes chargés de l'enseignement, viennent ensuite le charisme du miracle, puis de guérison, d'assistance, de direction, et le don de parler en langue. » Donc vous voyez, là encore, Saint Paul fait mention de ces fameux charismes. Et puis, je voudrais citer, troisième texte, l'Épître aux Romains, chapitre 12, les versets 3 à 6. Alors, 3b, 6a, enfin, peu importe, parce que je ne prends pas la totalité des versets 3 et du verset 6. Alors, je me permets de citer ce passage parce que, dans ce texte de Romains, on va voir que Paul va nouer ensemble la notion de charisme avec une autre notion qui va être très importante pour nous, celle de corps, la notion de corps. « Je dis à chacun de vous, dit Paul aux Romains, ne vous surestimez pas plus qu'il ne vous faut estimer. Mais gardez de vous une sage estime, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, comme nous avons plusieurs membres et un seul corps, et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant tous les membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et nous avons des, et voilà le mot arrive, des charismas. Nous avons des charismas qui diffèrent selon la grâce qui nous a été donnée. Est-ce la prophétie ? Exerçons-la selon la proportion de la foi, selon l'analogie de la foi, dit le grec, une expression importante. Est-ce le service ? Que ce soit en servant. Est-ce l'enseignement ? Que ce soit en enseignant. Est-ce l'exhortation ? Que ce soit dans l'exhortation. Que celui qui donne, donne avec un esprit sans partage, celui qui préside avec zèle, celui qui fait miséricorde avec joie. Voilà les trois textes. On pourrait en trouver d'autres dans ces trois textes majeurs qui peuvent nous parler des charismes. Alors, de ces trois textes, je voudrais tirer trois observations. Premièrement, le charisme est un élément de la doctrine de Paul, mais il recouvre des acceptions extrêmement diverses et qu'on a du mal à unifier. Vous avez vu, les trois textes proposent des listes de charismes. Les charismes, il s'agit en vrac d'un don gratuit de manifestation de l'Esprit-Saint, par exemple dans des paroles de sagesse, dans des paroles de science, dans une qualité particulière de foi, dans des dons de guérison, ou dans la force opérée des miracles, dans des prophéties, dans l'art de discerner les esprits. Mais on trouve également des charismes dans l'apostolat des apôtres, ou encore dans le service, l'assistance, l'enseignement, l'exhortation, la présidence des assemblées de l'Église, dans l'aumône, les œuvres de miséricorde, etc. etc. Vous voyez, donc, on peut faire des listes, c'est un peu un patchwork, et on a un peu du mal à savoir exactement ce que ça recouvre. Tout cela recouvre manifestement, l'action ou la parole de la communauté chrétienne. Ce n'est pas n'importe quand que Paul parle des charismes, mais il parle des charismes quand l'Église est manifestement rassemblée, dans le 1er aux Corinthiens et dans Paul, et dans l'Épître aux Romains. Mais cela recouvre une palette si vaste de différentes activités qu'il est difficile d'en dresser un catalogue ordonné. Même la liste numérotée par Paul en 1 Corinthiens 28, vous avez vu, il a dit premièrement les apôtres, et puis ensuite les prophètes, et puis machin, etc., ensuite les dons de guérison, etc. Même cette liste-là ne correspond pas à la liste qu'il avait donnée quelques versets auparavant. Donc la question que je tire de cette observation, c'est d'essayer de se dire, au fond, c'est quoi un charisme ? Vous vous posez tous la question, au fond, c'est quoi ? Dans cette espèce de patchwork de listes dressées par Paul, qu'est-ce que c'est qu'un charisme ? Compte tenu de cette liste assez hétéroclite que Paul nous dresse des charismes, que peut-on dire cependant du phénomène lui-même ? Voilà, ce sera ma première question. Deuxième observation et deuxième question. Tous ces charismes concernent l'Église ou la communauté dans son unité et sa diversité. Là, c'est l'image du corps que j'ai introduite avec l'Épître aux Romains. L'image du corps et des membres qui s'expriment dans l'Épître aux Romains est extrêmement présente aussi dans la première Épître aux Corinthiens. Et cette image est capitale parce qu'elle va servir pour Paul à articuler l'unité de l'esprit et la multiplicité des charismes. Donc l'un et le multiple. Il y a plusieurs charismes, mais il y a un seul esprit. De même, il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Et donc on voit très bien comment est-ce que Paul va lier ensemble ces deux notions, et ça c'est vraiment très important, du corps et du charisme. Et donc la question, c'est quel est le rapport de l'Église en tant que corps du Christ au charisme ? Ça, c'est la deuxième question. Troisième observation. L'université et la diversité des charismes, qui se reflètent dans l'unité et la diversité du corps de l'Église, eh bien cette unité et cette diversité a elle-même une raison d'être, plus haute encore que l'Église. Et cette raison d'être, c'est l'unique esprit. Et pas simplement l'unique esprit. Il dit il y a un seul esprit et il y a plusieurs ministères donnés par le Christ. Et il faudrait mettre, pour bien comprendre la chose, l'unique esprit et l'unique Christ. Vous savez, c'est la Trinité, un seul Dieu avec le Fils, Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc la question qu'on va se poser, la troisième question qu'on va se poser, c'est quel est le rapport des charismes dans leur diversité avec cet unique esprit et aussi avec ce Christ qui est unique. Voilà. Ça va être un peu le programme de ce que je vais essayer de vous dire. Sachant que la troisième question, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de l'aborder complètement, mais il y a des éléments que je vais donner en fait, déjà dans les deux premières questions. Comme ça vous donne un petit peu les bases de, les bases de, les bases de cette petite conférence. Ça vous va? Alors, d'abord, première question, première partie, ce que j'ai appelé le phénomène charismatique. Phénomène charismatique, donc, qu'est-ce que Paul veut dire quand il parle de ses charismes, ses paroles de science, de sagesse, don des langues, guérison, miracle, machin, etc. De quoi il veut parler? D'abord, quand on regarde les commentaires contemporains, j'en ai regardé un certain nombre, sur la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, dans les commentaires des exégètes, on remarque une chose, c'est que tous sont très très embarrassés par rapport à ça. On lit couramment dans ces commentaires que pour ces exégètes, pour ces savants, il s'agirait là de phénomènes spirituels qui auraient été propres au temps apostolique. Alors, il s'appuie en fait sur ces gens-là, s'appuie sur une phrase, sur un passage de Saint Jean Chrysostome, qui dit, quand il commente l'épître aux Corinthiens, qui dit, en fait, ce dont Paul parle, quand il parle des charismes, ce dont il parle, eh bien, en fait, tout cela n'existe plus de notre époque. Et Saint Paul et Saint Jean Chrysostome, c'est le 4e siècle. Donc, Saint Jean Chrysostome dit, bah voilà, c'est au moins 4 siècles que ça n'existe plus. Et tous les exégètes, à l'heure actuelle, disent, bon, bah, très bien, Saint Jean Chrysostome a déjà remarqué qu'il n'y a plus de charisme dans les assemblées de l'Église, donc maintenant, il n'y en a plus à faire classer. Et donc voilà, donc on dit, c'est en fait de l'histoire ancienne, c'est sur la spiritualité, il n'y a plus rien à faire avec ça. Très bien. Certains des commentateurs contemporains de ce texte de Saint Paul, qui se trouvent quand même fort embarrassés par rapport à ça, un peu comme une poule qu'aurait trouvé un couteau, essayent de réinterpréter le texte de Paul en rabaissant, si vous voulez, le côté surnaturel du charisme. En disant, mais au fond, il y avait peut-être des gens qui avaient un charisme naturel dans l'assemblée de prière à l'époque des Corinthiens, et que du coup, on trouvait qu'un tel avait une certaine manière de parler qui était particulièrement empreinte de sagesse, et qu'on disait, bon, ben voilà, il est charismatique, comme on pourrait dire que c'est un leader charismatique. Donc on trouve ce genre d'interprétation. Alors que Paul dit que ça vient véritablement de l'unique et du même esprit. Sur un cas particulier des charismes cités par Paul, en particulier donc celui de la prophétie, l'affaire semble encore plus nette. Paul tolère, voire encourage un certain usage de la prophétie, on l'a entendu dans un des textes que je vous ai cités tout à l'heure, encadré par ce qu'il appelle l'analogie de la foi, si quelqu'un prophétise que ce soit avec l'analogie de la foi, c'est-à-dire que ce soit en correspondance avec le message de la foi, que ce soit conforme à la révélation de la foi. Très bien. Mais, disent ces commentateurs, la prophétie, en réalité, elle ne pouvait avoir de légitimité que dans la période où l'Église était encore apostolique, c'est-à-dire que pendant la période où le canon des Écritures n'était pas fixé. Ça va? Ça vous dit quelque chose, tout ce que... Ça va? Tant que le canon des Écritures n'est pas fixé, il pouvait y avoir effectivement des prophéties, parce que la révélation était encore, pour ainsi dire, ouverte. Dieu pouvait encore parler. On a l'expérience de prophètes dans les Actes des Apôtres, un prophète qui s'appelle Agabus. Il y a d'autres prophètes, il y a un diacre, Philippe, dans les Actes des Apôtres, qui a 7 filles, et les 7 filles sont prophétesses, on le dit. Donc, c'était un phénomène qui était relativement courant, si vous voulez, au premier temps de l'Église, mais tant que la révélation était encore ouverte, on pouvait tolérer ce charisme ou cette manifestation. Mais depuis que la révélation est fermée, c'est que le processus de la clôture du canon, alors c'est un peu compliqué, mais globalement, dire que ça commence à la fin du 1er siècle, eh bien, quand on commence à se dire que la révélation de Dieu est terminée, que les écrits majoritaires de la révélation de Dieu sont mis sur papier et qu'on ne les bougera plus, eh bien, on commence à se méfier de la prophétie. Du côté juif, le processus canonique commence en 90 à Yabné. Dans le christianisme, il mettra un petit peu plus de temps à se faire. Mais chez les juifs, on considérait, par exemple au cours du 1er siècle, on considérait que le dernier prophète, c'était Malachie. Et que depuis que Malachie avait parlé, il n'y avait plus de prophète possible. Voilà. Et que si Dieu voulait s'adresser aux hommes, il pouvait parler avec une voix céleste, mais certainement plus par la médiation d'une voix humaine. Ce qui est la fin du prophétisme. Voilà, donc en fait, vous voyez, ce que l'on voit en fait quand on regarde les commentateurs contemporains sur ces textes de saint Paul, on voit que tous mettent en doute la possibilité qu'il y ait des charismes. Tous. Quasiment tous. Avec différents arguments qui sont apportés. Pourtant, l'histoire de l'Église, et en particulier l'histoire récente, semble ébranler un peu ces certitudes. Alors, d'abord, je voudrais apporter ici une précision. C'est que si on peut se poser la question de savoir s'il y a encore aujourd'hui, ou s'il y a eu dans l'Église, depuis saint Paul, des charismes dans l'Église en tant qu'elle est rassemblée encore, par exemple dans des assemblées de prière ou autres. Si on peut se poser la question de l'existence de charismes dans les assemblées de prière, il y a une chose qui est très claire, c'est que l'histoire, notamment de la sainteté, nous donne, depuis les origines, des exemples de personnes, de saints, qui ont été gratifiés de charismes. Vous connaissez, vous, hein, des saints qui ont eu le don de miracle, hein, qui ont eu le don de lire dans les âmes, comme on dit, qui ont eu la possibilité de parler, d'avoir des paroles, ce qu'on appelle des prophéties, donc des paroles qui sont inspirées par Dieu et qui vont être adressées particulièrement à l'une ou l'autre personne, de sorte que la personne, en l'écoutant, se sente connue et découverte par Dieu. Donc ça, on a des tas d'exemples hein, dans l'histoire de la sainteté, de gens qui ont vécu ça. Soit des grands saints, soit des gens beaucoup plus modestes. Mais ça, on a des tas d'exemples. Donc vous voyez, donc les charismes au niveau individuel, c'est clair qu'il y en a toujours eu dans l'histoire de l'Église. Toujours. Toujours. Moi, j'en étais assise avec le séminaire, il n'y a pas très longtemps. Bah, il suffit de regarder la figure de saint François d'Assise, c'est manifeste. Voilà. Même le don des langues, qui est quand même le charisme, je pense, le plus problématique, le don des langues, est-ce que vous savez ce que c'est que le don des langues? Ça vous dit quelque chose ou pas? Hein? Ouais. Alors, quand on regarde ce que dit saint Paul à propos du don des langues, il dit, enfin, si on s'en tient strictement au texte, après on peut faire des distinctions, mais si on s'en tient strictement au texte de la première épître aux Corinthiens, il dit tout simplement qu'il s'agit de parler de langue inintelligible. Parler une langue inintelligible. Qu'est-ce que c'est? C'est que vraisemblablement, on a beaucoup de mal à savoir exactement comment ça se pratiquait. Actuellement, l'Église, certains groupes dans l'Église redécouvrent ce qui s'apparente à un don des langues. Mais autrefois, on a du mal à savoir exactement ce que ça signifie. Toujours est-il que Paul parle clairement, dit clairement, qu'il y a dans l'Assemblée un certain nombre de personnes qui, sous la motion du Saint-Esprit, qui, sous l'inspiration de l'Esprit, se mettent à parler ou à proférer des sons qui sont inintelligibles. Ils sont inintelligibles. À tel point que Paul dit, si quelque chose de ce genre advient dans les assemblées, alors il faut demander le don d'interpréter ces langues. Il faut demander au Saint-Esprit, si c'est lui qui donne ces langues-là, il faut demander au Saint-Esprit la grâce de pouvoir interpréter ces langues. Voilà. Eh bien, ce don des langues, qui est le charisme... Alors, il y a quand même une certaine hiérarchie des charismes chez Paul. Le don des langues arrive toujours en dernière position. C'est celui que Paul considère comme étant le moins important. Mais ce don des langues est attesté dans la tradition ailleurs que chez Paul. Et notamment, c'est classique, hein, c'est deux textes classiques de saint Augustin que l'on cite à propos du don des langues, que vous avez dans le commentaire sur les psaumes, le commentaire sur le psaume 32 et le commentaire sur le psaume 99. Donc je vais vous lire un petit extrait du commentaire sur le psaume 32. « Rassure-toi, dit Augustin, Dieu t'indique la manière de chanter. Ne t'occupe pas de chercher les mots comme si tu pouvais mettre une musique capable de plaire à Dieu. Contente-toi de jubiler. Bien chanter devant Dieu, c'est jubiler. Mais qu'est-ce à dire? Écoutez ce que dit Augustin. C'est renoncer à comprendre, renoncer à dire avec des mots ce qui se chante dans le cœur. Voilà ce que dit saint Augustin. Donc il s'agit bien de sortir des mots qu'on ne comprend pas, chanter des mots qu'on ne comprend pas. Voyez ceux qui chantent, moissonneurs, vendangeurs ou autres. Leur joie s'allume d'abord aux paroles des chansons, mais bientôt elle les envahit et les paroles seraient impuissantes à les déployer encore. Alors ils laissent mots et syllabes et on n'entend plus que leur jubilation. Musique sans parole, parce que le cœur veut mettre au jour ce qui ne peut se dire. Tu ne peux dire ce qu'il est et tu ne dois. Alors, attends, qu'est-ce que c'est que cette phrase que j'ai recopiée vite fait? Bon, ça va comme ça. Et voilà. Dans le commentaire sur le psaume 99, celui qui est dans la jubilation ne prononce pas de parole, sa joie se fait entendre sans qu'il y s'y mêle des mots. C'est le chant d'une âme que la joie inonde et qui, comme elle, peut extérioriser ses sentiments sans arriver à former des phrases. L'homme qui est dans la joie à partir des mots qui ne peuvent déjà plus ni se dire ni se comprendre passe à une autre sorte de cri où le bonheur jaillit sans parole. Deux attestations, vous voyez, de saint Augustin. Il s'agit bien, à chaque fois c'est lié à la joie, à la jubilation, au chant. Il s'agit de chanter, il s'agit de jubiler, hein, sous la motion de l'esprit, avec des mots qui ne se comprennent pas. Le don des langues, d'ailleurs, n'est pas le seul charisme qui est attesté, hein, dans la tradition, notamment chez les pères de l'Église. On pourrait citer saint Basile de Césarée dans son commentaire sur le Saint-Esprit, qui dit donc au IVe siècle qu'en recevant le don de l'Esprit vient, dit-il, notamment la prévision de l'avenir. Vous voyez, pour saint Basile, la réception particulière du don de l'Esprit peut donner d'entrevoir quelque chose de l'avenir, la vision de l'avenir. On pourrait mentionner d'autres témoignages, mais je ne vais pas le faire. Ce que je voudrais simplement, c'est pour terminer sur, vous voyez, ces témoignages de l'Église en faveur des charismes, mentionner le magistère récent, d'abord Mystici Corporis de Pie XII, qui parle des charismes dans la mission de l'Église, et surtout le Concile Vatican II, à plusieurs endroits, fait mention des charismes. Dans la constitution Lumen Gentium, le Concile Vatican II reconnaît que l'Église est ornée de dons charismatiques. Il y a les dons hiérarchiques et les dons charismatiques. Voilà. Aucune liste des charismes n'est donnée par le Concile, mais cela concerne à l'évidence des dons gratuits donnés par Dieu à tout chrétien, prêtre, fidèle laïc ou religieux. Ces dons ornent l'Église et lui donnent la splendeur que Dieu a réservée pour son épouse. Cet enseignement a été relayé par le magistère des papes Jean-Paul II, les papes Benoît XVI et le pape François, jusqu'à une lettre récente de la Congrégation pour la doctrine de la foi, publié le 15 mai 2016, et qui parle des charismes, et cette lettre s'appelle « Iuve Nicit Ecclesia », l'Église se rajeunit, l'Église rajeunit. Que vous pouvez aller lire, d'ailleurs, ce sera « Iuve Nicit Ecclesia » du 15 mai 2016. Alors, donc vous voyez, j'ai commencé par rappeler les objections qu'on trouve régulièrement dans les commentaires exégétiques sur les charismes. Puis j'ai mentionné, pour une part, l'expérience de l'Église, le magistère récent. Je voudrais maintenant parler aussi, apporter comme autre preuve sur l'existence des charismes, l'expérience assez contemporaine de l'Église. Ce qu'on appelle donc le renouveau charismatique, hein, dans l'Église à l'heure actuelle. Le renouveau charismatique du XXe siècle. Vous savez que la particularité de ce renouveau charismatique du XXe siècle, c'est qu'il vient du monde protestant. Donc c'est ça que je voudrais essayer de vous... C'est une petite histoire que je voudrais essayer de vous raconter rapidement par le monde protestant. Parce que, vous voyez, ce qui est clair, c'est que, comme je disais, les charismes individuels n'ont jamais été perdus dans l'Église. En revanche, l'expérience des charismes en communauté, donc en groupe d'Église, c'était quelque chose qui, semble-t-il, ne se pratiquait plus. Ceci dit, ça a d'abord été redécouvert dans le monde protestant, hein, en particulier au XXe siècle aux États-Unis, mais bien avant déjà au XXe siècle, hein, dans un certain nombre d'expériences spirituelles, fortes, et qui, à mon sens, appartiennent au bien commun de l'Église. Donc pour nous, catholiques aussi. Et je veux mentionner en particulier ce qu'on appelle l'expérience du réveil au XVIIe siècle protestant. Vous savez, au XVIIe siècle protestant, notamment en Allemagne, grâce en fait à ce qui a été retenu dans le monde protestant de la spiritualité réno-flamande, il y a eu des expériences de réveil, et notamment ça va donner un des mouvements les plus connus du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle protestant, qui est le mouvement piétiste. Donc un des grands noms du piétisme, c'est Spina. Je ne sais pas si là il y a des Allemands, je ne sais pas. Ça te dit quelque chose?
Spina,
c'est le nom d'un homme qui vivait au XVIIe siècle. Ça ne dit rien, non. Voilà. Zizendorf. Non. Zizendorf est un type assez connu au XVIIe siècle, enfin en tout cas dans ce monde-là, parce que c'est un comte, un type qui avait pas mal de sous et qui était protestant, et qui a fait une expérience, qui a reçu une vision du Christ, et qui l'a à ce point bouleversé, qu'il a tout vendu, et qu'il a construit une sorte de communauté monastique au XVIIe, XVIIIe, qui s'appelle les frères Moraves. Ils sont assez connus, hein, et qui va se développer, et qui est axé sur deux choses. C'est l'expérience immédiate que le Christ m'aime, donc l'expérience de l'amour de Dieu, et la charité fraternelle. Ça, c'est au XVIIIe siècle. Il faudrait citer aussi, à partir du XVIIIe siècle, le mouvement de Wesley, donc en Angleterre, le méthodisme, qui lui aussi a vécu une expérience extrêmement profonde. Alors, c'est plutôt dans le monde anglican, cette fois-ci, hein, en lien d'ailleurs avec une mission des frères Moraves. On peut apporter des connexions entre ces deux groupes. Et Wesley parle de l'expérience qu'il a eue et qu'il parle comme donc d'une rencontre personnelle avec le Christ, dit-il, qui a bouleversé sa foi. Il le parle comme d'une expérience de feu. Lui, c'est vraiment son expérience personnelle. L'expérience de feu, notamment dans laquelle il trouve la certitude du pardon de Dieu. La certitude du pardon de Dieu. Il vit une intériorisation puissante du donné de la foi. Le Christ devient son Seigneur. Alors ça, c'est typique du mouvement piétiste. Le mouvement piétiste, c'est un mouvement qui consiste à dire que le Seigneur n'est pas simplement quelqu'un, peu importe, hein, mais que c'est mon Seigneur. C'est celui auquel, moi, personnellement, je m'attache. Et plus encore, le mouvement piétiste s'intéresse à ce qu'ils appellent l'intériorisation des mystères de la vie du Christ. Donc c'est pas simplement quelque chose d'extérieur à moi, etc. Non, c'est quelque chose qui rentre en moi, que je vis, que je dois intérioriser en moi, et qui a la puissance de renverser complètement, de bouleverser et de me convertir. Enfin, si je fais ça en schématique, c'est simple. Ouais. C'est dans ces mouvements-là, donc piétistes, chez les frères Moraves ou chez Wesley, dans ces trois mouvements-là, on redécouvre en quelque sorte le sens actuel de l'écriture. L'écriture, pour ces gens-là, n'est plus un truc qui a été écrit il y a 2000 ans, mais c'est une parole, qui est la parole de Dieu, qui est encore valable aujourd'hui, qui est encore actuelle pour chacun de ces gens à l'heure actuelle, à leur époque. L'écriture devient le témoignage de l'action de la présence du ressuscité parmi eux. Les sens littéraux, les sens allégoriques, tropologiques de l'écriture sont comme vivifiés. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les quatre sens spirituels de l'écriture, les quatre sens de l'écriture. Hein. Les sens littéraux, allégoriques, tropologiques de l'écriture sont comme vivifiés par une expérience du dernier des sens spirituels, le sens analogique. Le Christ est vivant et c'est lui qui ouvre l'écriture. L'expérience du ressuscité, c'est cela qui donne l'intelligence des écritures. C'est aussi l'expérience du « c'est ». Oui, c'est vrai, le Christ est vraiment ressuscité. Vous voyez, c'est toute cette expérience-là, très vivante, très existentielle, que le protestantisme redécouvre de manière pas simplement individuelle, mais dans des communautés entières, c'est ça qui est intéressant, hein, au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle. Avec cette redécouverte de la proximité immédiate du Sauveur, ces gens-là redécouvrent également la mission du Saint-Esprit. Et on trouve chez ces gens, notamment chez Wesley, des écrits sur ce que réalise le Saint-Esprit. Et il s'appuie évidemment sur les chapitres 14, 15 et 16 de l'évangile de Jean, où le Saint-Esprit, selon saint Jean, est celui qui unit le fidèle à son Seigneur, au Christ. Et donc, Wesley dit, l'expérience vivante du Christ est une expérience aussi du Saint-Esprit. C'est aussi une expérience de l'Esprit. Voilà. Alors ça, c'est intéressant, parce que vous voyez qu'on voit bien que comment est-ce que l'expérience du réveil est liée avec donc non seulement à une redécouverte du Christ vivant, mais à une redécouverte de la mission de l'Esprit. Et l'Esprit, selon ces gens-là, l'Esprit agglomère les chrétiens autour du Christ en sorte qu'ils forment un seul corps. Donc il y a une conception tout à fait charismatique, pour ainsi dire, de l'Église, pneumatique de l'Église. Le réveil protestant poursuit son œuvre de révélation de la foi au cours du 19e et du 20e siècle, notamment aux USA dans les années 60. Et c'est là que certaines personnalités catholiques, d'abord des prêtres, et puis aussi des fidèles laïcs, dans les années 60, vont faire l'expérience de ce que les protestants appellent alors l'effusion du Saint-Esprit, et qui est cette expérience dont je vous ai parlé. Un couple de Français se trouve sur place. Alors je le cite parce que il a eu un rôle, ce couple-là a eu un rôle très important dans le renouveau charismatique en France ensuite. Un couple de Français donc se trouve présent en 69 aux USA, font l'expérience de cette effusion de l'esprit dans un groupe de pentecôtistes. Il s'agit de Xavier et de Brigitte Le Pichon, et ce sont eux qui, de retour en France, vont commencer à répandre en France ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Le renouveau charismatique, à partir de ces gens-là, va donner des tas de communautés dont vous connaissez sans doute un certain nombre. Hein, le Verbe de vie, l'Emmanuel, qu'est-ce qu'il y a encore comme communauté charismatique ? Enfin, il y en a plein. Le Chemin Neuf, etc., etc. Voilà. L'expérience fondamentale de ce renouveau, c'est ce qu'on appelle donc l'effusion du Saint-Esprit. Expérience de l'irruption et de l'œuvre puissante de l'Esprit de Dieu qui rend présent le Christ. Et cette expérience s'accompagne historiquement avec la redécouverte de ces phénomènes spirituels que l'on appelle les charismes. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire. Alors je me suis dit que, parce que moi ça rejoint un petit peu mon expérience personnelle, je me suis dit que je pouvais vous raconter ce que moi j'avais vécu. Quand j'ai fait cette expérience de l'effusion de l'esprit, donc en l'occurrence c'était à Paray-le-Monial, donc ça s'est fait en plusieurs fois, c'était à Paray-le-Monial au cours d'une soirée avec la communauté de l'Emmanuel, et puis il y avait le Saint-Sacrement qui était exposé sur l'autel, et puis à la fin de cette veillée qui avait été assez forte, les gens se sont mis à applaudir dans l'église, dans la grande basilique de Paris, les gens se sont mis à applaudir dans la basilique. Et moi, personnellement, ça m'a profondément heurté, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait applaudir dans une église, je trouvais ça manquait de respect, quasiment. Mais pour faire comme tout le monde, je l'ai fait, mais c'était pas très glorieux. Et alors, ce qui s'est passé après, je mets des mots, ces mots-là, c'est comme ça que j'explique les choses. C'est comme si j'avais ressenti, c'est comme si j'avais entendu une voix à l'intérieur de moi. Je ne l'ai pas entendu avec mes oreilles. C'est comme si j'avais entendu une voix à l'intérieur de moi, une idée, une phrase qui s'est imposée. Ce n'était pas simplement une phrase, c'était quelqu'un qui disait cette phrase. Et voilà ce que disait cette phrase. Elle disait... Tu m'applaudis comme on applaudit un roi, et tu as raison, car tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors pourquoi as-tu peur ? Avance. Voilà cette phrase que j'ai entendue, cette parole intérieure que j'ai entendue. Le lendemain, on fêtait l'ascension. Et à l'ascension, on lit la finale de l'évangile, en tout cas à l'époque c'était la finale de l'évangile de Matthieu. Vous savez ce que dit la finale de l'évangile de Matthieu ? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, allez, de toutes les nations, faites des disciples. Quand j'ai entendu cette phrase que j'avais reçue la veille, où je ne lisais pas particulièrement l'écriture, ça m'a vraiment bouleversé. C'est vraiment quelque chose de vraiment tout à fait étonnant. De fait, ce soir-là, quand j'ai reçu cette parole intérieure, ma vie a vraiment changé. C'est-à-dire que j'ai expérimenté avec ça une joie comme rarement j'en avais fait l'expérience. À l'époque, je travaillais dans la banque, et en rentrant à Paris, je ne pouvais plus garder cette joie. Donc j'ai commencé à parler du Christ, à évangéliser autant que je pouvais, autour de moi, chez mes collègues de bureau. Quoi. Donc ça donnait des situations assez cocasses, mais c'était vraiment... pour moi, c'est vraiment... C'est un des plus beaux jours de ma vie. Vraiment, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, la semaine d'après... Le samedi d'après, on se retrouve à Montmartre avec un groupe de prière, en l'occurrence groupe de prière dans la communauté de l'Emmanuel, et il y a quelqu'un qui donne un enseignement sur les charismes et notamment le chant en langue. Alors il lit le passage de Paul que je vous ai lu, donc des langues, il explique que Paul dit, bah voilà ce que je dis tout à l'heure, ça peut être, on ne sait pas très bien, mais sans doute des paroles inexprimables, un peu inarticulées, qui sortent sous l'effet d'une jubilation ou sous la motion du Saint-Esprit. Et puis, cet homme qui faisait cet enseignement cite aussi un verset de Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, dans lequel Paul dit « Nous ne savons pas prier, mais l'Esprit intervient en nous avec des gémissements ineffables. » Donc lui, il fait le rapprochement entre ces deux versets, il dit « Ben voilà, le gémissement ineffable du Saint-Esprit dans notre cœur produit le chant en langue. » Et il dit ceci, il dit en fait « Le chant en langue, c'est d'une certaine manière l'Esprit qui vient lui-même prier en nous. » C'est-à-dire que nous ne savons pas prier comme il faut, et l'Esprit vient lui-même prier en nous. Et comme c'est une prière de l'Esprit, et bien forcément ça dépasse les mots compréhensibles que l'on peut attribuer. Moi j'entends cet enseignement, et je me dis, mais moi j'ai toujours voulu prier. J'ai envie de prier, j'ai toujours voulu prier. Alors, si j'accueille l'Esprit qui vient prier en moi avec ses propres mots, ben, c'est trop de la balle, quoi. Il faut que je le fasse. Et donc, je me souviens d'avoir fait cette prière, d'avoir dit, mais Seigneur, si ce truc existe, que je puisse le vivre. Et à la fin de l'enseignement, la personne qui nous faisait l'enseignement me dit, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un exercice. Donc, qu'on demande le don de l'Esprit, qu'on prie pour obtenir ce don de l'Esprit. Et puis, qu'on demande que le don du chant en langue, de ces langues, soit donné. Alors, je me dis, bah, ok, très bien, moi j'y vais. Donc on commence à prier, on chante l'esprit, etc. Et deux chants l'esprit, etc. Alors c'est pareil, après, c'est quelque chose, un truc un peu bizarre qui m'est arrivé, que je vais vous raconter. Mais ce que je vous dis est vrai, c'est-à-dire que je ne raconte pas des cracks, c'est vraiment ce qui s'est passé. Voilà comment les choses se sont passées. Donc c'est quelque chose que moi je désirais ardemment vivre. J'ai reçu une joie pareille, une espèce de jubilation, comme disait saint Augustin, une jubilation vraiment, mais c'était assez impressionnant, à tel point qu'il fallait que ça sorte, mais que ma mâchoire était comme paralysée, et que je n'arrivais pas à articuler des mots. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je faisais des trucs comme ça, tout le monde s'amusait à faire ça, mais en tout cas, voilà comment moi j'ai chanté pour la première fois en langue. Alors, moi, là encore, j'en garde un souvenir assez étonnant. On a demandé la grâce de l'interprétation de ces langues, et à ce moment-là, plusieurs autres charismes ont été donnés, soit sous forme de texte, vous voyez, on ouvre la Bible, etc., ou soit sous forme de paroles qui ont été données à l'Assemblée, que les gens ont pu dire. Or, ce qui était assez impressionnant, c'est que les textes et les paroles se correspondaient les unes les autres. Alors, on ouvre la Bible et trouve plusieurs textes qui se correspondent. Donc vous voyez ça, je ne me souviens plus du tout quelle était l'interprétation des chants. Mais en tout cas, c'était ça, si vous voulez. Voilà l'expérience, mon expérience personnelle du chant en langue. Une autre expérience personnelle, par exemple, que j'ai faite sur ce qu'on appelle, alors c'est lié à ce que Paul appelle le charisme de prophétie. Vous savez que le charisme de prophétie, c'est une parole donnée sous l'inspiration du Seigneur. Quand on prie, on peut avoir tout d'un coup une motion, une parole donnée par l'inspiration du Seigneur, et que l'on va donner à l'assemblée de prière pour guider la prière commune. Voilà, dans les louanges, par exemple. Alors, il y a des critères pour essayer de savoir si les prophéties viennent vraiment de Dieu ou pas de Dieu. Par exemple, Paul dit, sous le feu de l'Esprit, dans l'action de l'Esprit, nul ne peut dire anathème à Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler contre le donné de la foi. Alors, voilà un critère. Le donné de la foi, est-ce que la parole correspond, est-ce que la prophétie correspond au donné de la foi, ce que Paul appelle l'analogie, la proportion de la foi, est-ce que ça correspond à ça? Voilà un critère. Un deuxième critère, c'est que ça doit construire, ça doit édifier la prière commune. Ça doit construire la prière commune. Une prophétie qui n'a rien à voir avec ce qui est en train d'être vécu dans le groupe, par exemple, eh bien, ne vient vraisemblablement pas du Seigneur. Ça doit édifier la prière commune. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de critères, donc on ne parle pas comme ça au hasard, c'est comme ça d'un certain nombre de critères. Et qui se rattache à ce charisme dit de prophétie, hein, proféré, enfin prophiémi, c'est-à-dire parler devant, hein, tout simplement ça. Avec ce charisme, qui se rattache à ce charisme de prophétie, un autre charisme qu'on appelle communément le charisme de texte, qui consiste à ouvrir sa Bible, à demander au Seigneur, en ouvrant sa Bible, entre guillemets, au hasard, que Dieu nous fasse lire une parole qui nous soit utile, soit pour nous, ou soit pour l'Assemblée. Soit dit en passant, François d'Assise, par exemple, pratique régulièrement ce genre de charisme. Quand on lit la vie de François d'Assise, il y a plusieurs moments dans sa vie où il fait ce genre de choses. Alors, à propos du charisme de texte, voilà une petite histoire qui m'est arrivée. Un jour, donc, j'étais pas séminariste, mais j'étais... engagé sur la paroisse, déjà à Saint-Nicolas-des-Champs, là où je suis maintenant, dans la communauté de l'Emmanuel, et on faisait une mission d'évangélisation. Et donc je vais évangéliser, vous savez, à la place, à la Fontaine des Innocents, là, au Hall, avec guitare, machin, etc., enfin, tout qui va bien. Et puis, je parle avec un type, qui, je pense, était assez un peu simplet, et qui, je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais qui est littéralement tombé amoureux de moi. Il s'est accroché à moi. Donc, au début, je trouvais ça très bien. Le temps, en tout cas, de le ramener à l'église. Mais très rapidement, j'ai trouvé ça pénible, quoi. Donc, surtout que la mission durait 3 jours. Donc, le premier jour, cette histoire arrive le premier jour. Alors, évidemment, le premier jour, j'arrive à me débrouiller un peu moins. Mais le deuxième jour, il était toujours là. Et puis, dès que j'arrivais dans l'église, pof, il était tout le temps avec moi. Donc, j'ai essayé tous les stratagèmes. J'ai essayé de dire... Tu sais, moi je suis qu'un panneau indicateur, c'est pas moi que tu dois regarder, c'est Jésus. C'est la méthode, vous voyez, la méthode, c'est de lui faire prendre un peu raison. Mais ça marche pas, il voulait pas Jésus, il voulait moi. Et puis, autre technique, à un moment donné, il y avait une salle qui était réservée pour où on pouvait déjeuner, une sorte de cantine. Donc j'étais en train de discuter avec un copain, et puis je le vois qui rentre dans la salle, et je lui dis, cache-moi, donc je me suis caché sous une table. Parce que je ne voulais pas qu'il me voie. D'ailleurs, j'ai pris la poudre d'escampette, je me suis planqué, je suis allé courir devant le Seigneur, devant le Saint-Sacrement, et j'ai épanché mon cœur devant Dieu en disant « Mais Seigneur, débarrasse-moi de ce type. » Donc j'ai vraiment prié pour que le Seigneur l'éloigne de moi. Et j'étais assez ardemment plongé dans ma prière, j'ai entendu du bruit, je me retourne, il était à 2 mètres de moi derrière. Alors je me suis dit « c'est pas possible. » J'ai l'intuition de prendre ma Bible. Donc je prends ma Bible, je l'ouvre. Je suis tombé sur l'épître à Philémon. Et puis à Philémon, c'est une page dans la Bible. Et je suis tombé sur ce passage où Paul dit, il écrit à un de ses copains en lui renvoyant Philémon, il écrit à Philémon en lui renvoyant Sosthène, je crois que c'est ça, hein, son esclave. Et il écrit donc à Philémon, à propos de cet esclave, Sosthène, il dit donc. Donc c'est là où c'est la phrase qui, moi, m'a frappé. Donc, si tu penses être en communion avec moi, accueille-le comme si c'était moi. S'il te doit quelque chose, ou s'il t'a fait quelque tort, mets cela sur mon compte. Voilà le texte que je reçois. Vous voyez ? Donc, comment est-ce que j'ai compris ce texte ? J'ai compris clairement que le bon Dieu m'appelait à faire un effort envers ce petit bonhomme. Accueille-le comme si c'était moi. On sait très bien que dans l'Écriture, Jésus s'identifie aux pauvres, Matthieu 25. Ce que vous avez fait à l'aide de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc vous voyez, l'interprétation du texte, ça a été facile. Mais c'était complètement... Moi, je n'ai pas fait exprès. Tomber sur ce texte-là, sur ce verset, sur les 30 000 versets qu'il y a dans l'Écriture, il faut quand même le faire. Vous voyez ? Et non seulement ça, mais ça correspondait exactement à la situation que j'étais en train de vivre. Donc vous voyez, ça, c'est la vie charismatique. Là, c'est quelque chose qui, moi, m'édifie, moi, personnellement. Et puis ça m'a édifié aussi la communauté, parce que ça m'aide à accueillir ce bonhomme. Alors les choses n'ont pas été simples, ça je peux vous dire. Mais c'était vraiment compliqué. Et je peux pas dire d'ailleurs que ça a été très très brillant jusqu'au bout cette affaire, mais peu importe. Mais vous voyez, c'est clair que pour moi, l'appel de Dieu avait résonné dans ce verset. Voilà. Donc voilà quelques petits exemples, vous voyez, de ce que moi je peux vivre dans cette vie charismatique. Alors voilà, je pourrais parler d'autres charismes que moi je n'exerce pas, parce que je ne les ai pas, mais charisme de science. À Saint-Nicolas-des-Champs, là, dans la paroisse, il y a une prière tous les jeudis soirs pour les malades. Je ne sais pas si on a peut-être entendu parler, la prière pour les malades de Saint-Nicolas, qui accueille globalement 1200 et 1600 personnes tous les jeudis soirs, dans le troisième. C'est le plus gros groupe de prière qui puisse exister. Et là, cette assemblée, elle est dirigée par un prêtre qu'on connaît bien avec le Père Florent, le Père Thierry Aval, qui a ce charisme de science. Et qu'est-ce qu'il fait? Il annonce des guérisons qui sont opérées dans l'assemblée. Alors, c'est assez étonnant. Il dit, ben voilà, dans l'assemblée, il y a un homme, par exemple, de 45 ans, qui a les tendons des poignets coupés, le Seigneur le guérit. Alors, je vous mentionne cette histoire, parce que cette histoire est arrivée. C'était un chirurgien, qui avait peut-être un peu plus que 45 ans, qui, après un accident de moto, avait les tendons des deux mains qui étaient coupés. Il va prier à la prière des malades. Je ne sais plus si c'est Thierry ou d'autres, parce qu'il n'est pas le seul à exercer ce charisme-là, annonce cette guérison, et de fait, le type a été guéri, maintenant il réopère. Donc vous voyez, voilà, et ce genre de choses arrive. Ça arrive. Dieu n'est pas limité par ses dons, il continue à agir. Et non seulement il continue à agir, mais il annonce par la bouche d'un certain nombre de personnes ce qu'il fait. L'annonce faite par, en l'occurrence, le Père Thierry, par d'autres personnes de son groupe, c'est ce qu'on appelle un charisme de science. Pourquoi science? Parce qu'ils ont la connaissance de l'œuvre que le Seigneur accomplit dans les cœurs ou chez les gens. C'est comme ça, si vous voulez, que quand on lit l'Épître aux Corinthiens, quand moi je lis l'Épître aux Corinthiens, les passages que je vous ai lus, moi ça me fait immédiatement penser à ce genre de choses-là. Pour moi, c'est pas très compliqué, vous voyez, ça vient comme ça. Voilà. Bon, il y a d'autres charismes possibles, mais je passe. Ça va? Alors maintenant, je voudrais vous parler des charismes et du corps de l'Église. Ça, c'est un peu plus... ça correspond à la deuxième question que je ne sais pas combien de temps je dispose.
Tellement là. Sinon c'est un charisme de contraction du corps. Il faudrait que. Mais, si tu laisses un peu de place pour des questions peut-être.
Ouais.
Peut-être encore 5 minutes.
Très bien. Alors
et après 5 minutes de questions.
Très bien, mais je vais faire ça en papier. Donc l'idée, en fait. Je vais vous dire les choses. Alors, c'est la partie que j'avais le plus travaillé, mais c'est pas grave. C'est très bien, parce que moi, c'est super. En fait, ce qui est intéressant dans l'Épître aux Corinthiens, et d'ailleurs aussi dans l'Épître aux Romains, c'est que la notion de charisme et la notion de corps sont nouées ensemble. Alors, pourquoi? La première question, c'est de savoir pourquoi Paul parle de l'Église comme corps. En fait, quand on regarde les Écritures, dans l'Ancien Testament, par exemple, jamais on ne procède ainsi. On ne parle jamais d'Israël ou de l'Assemblée de Dieu comme corps. Jamais. Donc c'est pas un truc qui vient de l'Ancien Testament, disent les exégètes. Paul parlerait de l'Église comme corps en s'appuyant sur un apologue qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, de Meninius Agrippa, je ne sais pas si vous dites quelque chose, un rhéteur latin, qui est le premier à avoir inventé, semble-t-il, cette image qui parle de la société comme d'un corps. Voilà, la société comme un corps. Donc, vous voyez, dans la rhétorique de l'époque, semble-t-il, cet apologue était très connu dans le monde antique. On parlait fréquemment de la société comme corps. On retrouve ça chez Sénèque, par exemple. Paul, qui s'adresse à des gens qui sont des latins, enfin des corinthiens, parce que Corinthe est une ville romaine, bien que ce soit en Grèce, hein, qui s'adresse à des corinthiens, des gens qui sont pétris de culture latine, pourrait, c'est une hypothèse qui marche tout à fait, parce que ça rentre aussi dans les modèles rhétoriques que Paul utilise, pourrait tout à fait avoir utilisé cet apologue pour parler de l'Église comme d'un corps. En retournant cet apologue, c'est en lui donnant deux choses un peu nouvelles, d'abord en disant que l'important dans le corps, c'est les membres les plus faibles, ça c'est quelque chose d'un peu nouveau, voilà. Et deuxièmement, en gardant au Christ la place éminente de la tête. Ça, c'est une hypothèse et ça fonctionne assez bien. Et l'idée, ce serait de dire que de même qu'il y a diversité de charismes, eh bien, de même, dans l'Église, il y a diversité de membres. Et les charismes qui sont reçus par chacun des membres doivent refléter le fonctionnement de l'Église comme corps, dans la concorde et l'harmonie. Et de fait, ça correspond à ce que Paul dit un peu plus tard dans l'Épître aux Corinthiens. Il dit « Vous pouvez pratiquer les charismes, que tout se fasse dans l'ordre et dans la dignité. » Donc là, c'est une manière de comprendre les choses. Diversité des charismes, mais ça doit se faire dans un certain ordre, d'une certaine manière. Pas en vrac, pas être le foutoir, si vous voulez. Ça, c'est une première interprétation. Et à mon avis, elle est très juste, parce qu'à partir de cette interprétation, on peut obtenir un certain nombre de critères pour l'utilisation des charismes, les critères que je vous ai donnés un peu tout à l'heure. Une deuxième interprétation du corps me semble plus intéressante, c'est d'aller voir le lien qui existe entre le corps et le temple. Parce qu'il y a des liens dans la première épître aux Corinthiens entre le corps et le temple, donc entre le corps et le culte. D'abord le corps individuel des chrétiens. Quand on parle de corps, de soma, bref, peu importe, c'est pas sans lien avec le culte. Voilà. Et dans la première épître aux Corinthiens, Paul va parler des chrétiens comme, donc des chrétiens individuels, comme d'un temple de Dieu, ça il le dit. Il va parler de l'Église dans son ensemble comme temple de Dieu. Il va parler des chrétiens individuels comme corps sur lesquels habite l'Esprit. Il va parler de l'Église comme d'un corps. Vous voyez, donc toutes ces images communiquent les unes avec les autres et se lient les unes aux autres. Or, quand on lit en fait l'Ancien Testament, on voit que le culte du temple à Jérusalem est particulièrement organisé, chacun selon ses classes. On distribue des classes, on distribue des rôles, et c'est David qui fait cela dans le livre des Chroniques. On distribue des rôles à un certain nombre de gens qui sont les Lévites pour l'organisation du culte à Jérusalem. Alors ça c'est très intéressant, parce que précisément dans la première épître aux Corinthiens, les charismes sont distribués par l'Esprit au corps de l'Église qui rend son culte à Dieu, puisque le corps est fait pour le Seigneur et le Seigneur est fait pour le corps. Vous voyez, il y a un lien entre l'Église comme corps, le culte et la distribution des charismes. Donc il y a quelque chose qui est véritablement indiqué par Paul, me semble-t-il. Ce qui fait que pour Paul, il y a certes le culte eucharistique, dans la première épître aux Corinthiens, le culte eucharistique est très clairement sa place, 1 Corinthiens 11. Mais il y a aussi, avec le culte eucharistique et autour du culte eucharistique, une autre manière, une manière complémentaire de rendre un culte à Dieu, qui est de s'offrir au Seigneur, et pour cela, d'édifier la maison commune, d'édifier l'Église. Et les charismes servent à cela. Les charismes sont une manière de construire l'Église pour permettre à l'Église de s'offrir davantage. Voilà. Donc ça, je fais ça très très bref, mais... J'ai à peu près tenu le timing.
C'est super, merci.
Voilà.
Merci. Une autre question, peut-être.
Si vous deviez, vraiment, juste comme ça, de façon très spéculative, donner un sens au renouveau charismatique, pourquoi maintenant, au XXe siècle, pourquoi est-ce que ça revient ? Est-ce que vous y allez ?
Alors c'est une vraie question, je vais te dire, ma réponse n'est certainement pas suffisante, mais à mon avis, en tout cas moi, elle me convainc. C'est-à-dire que ce que je remarque, c'est que le XXe siècle est un siècle dans lequel la société, ou du moins la culture contemporaine, devient de plus en plus matérialiste. La difficulté pour les gens, c'est de croire que quelque chose d'autre, d'invisible, existe, et que la réalité ne s'arrête pas à ce que l'on peut constater et toucher. Ben, les charismes, je pense, c'est une manière par laquelle le Seigneur nous montre qu'il est capable, que le monde invisible existe, qu'il est capable d'agir. Voilà. Et si j'étais un peu prophète, si je voulais jouer au prophète, je dirais la chose suivante, je dirais que plus le monde deviendra matérialiste, et plus il y aura des charismes, et plus il y aura des signes, plus il y aura des prodiges. C'est aussi comme ça que moi je comprends ce qui se passe à Saint-Nicolas-des-Champs, qui est ma paroisse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que moi ça me sidère, je me dis c'est pas possible que ce truc existe, Oui, et que ce soit pas, il soit pas significatif même pour notre époque. Bon, voilà, c'est comme ça que moi je répondrai. Alors, je pourrais dire aussi que les papes ont prié pour ce qu'ils appellent une nouvelle Pentecôte de l'Église. Jean 23 a prié pour ça, Jean-Paul II l'a prié aussi, etc., etc. Et que le renouveau charismatique peut tout à fait se reconnaître là-dedans.
Est-ce qu'on peut dire que le mouvement mystique au Moyen-Âge, c'était aussi quelque chose charismatique ou la différence entre la mystique au Moyen-Âge et le mouvement charismatique
contemporain? La différence, me semble-t-il, d'abord, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les charismes n'ont jamais manqué de manière individuelle à l'Église. Donc à chaque fois, mais même nous, même toi, moi, si nous cherchons à vivre une vie chrétienne réelle, eh ben, le Seigneur nous donnera de vivre des charismes. Il nous donnera des charismes pour l'édification du peuple. Là, c'est une chose. Donc, voilà. Mais ce qui est particulier, me semble-t-il, à l'époque contemporaine, qu'on trouve déjà un petit peu dans le monde protestant au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est que ces charismes sont vécus par des groupes, donc ensemble. Là, en l'occurrence, concrètement, moi, ce que je connais, c'est les assemblées de prière. Donc c'est là, ça c'est quelque chose d'un peu spécial.
Et tu penses à quoi exactement quand tu parles de la mystique au Moyen Âge?
Par exemple, Bernard de Clairvaux aussi.
Maître 4.
Je ne sais pas si on peut faire un. Je sais pas si ça colle vraiment. Des mystiques, c'est certainement un ministre du Saint-Esprit, mais je ne sais pas si ça rentre bien dans l'histoire des charismes tels que saint Paul en parle.
Un charisme, c'est vraiment un don particulier qui peut être fait une fois ou plusieurs fois, enfin, comme moi quand j'ai reçu mon texte avec mon petit bonhomme.
Tu vois, le texte, hein, un peu de base, enfin, les deux textes dans la mystique dans le Nouveau Testament, c'est le nom de Saint-Étienne, parce que ça fait un lien quand on voit les cieux ouverts et je vois le Fils de l'homme. Donc ça fait un lien entre le martyr et l'expérience mystique. Et surtout dans la deuxième aux Corinthiens, où il dit « Je connais un homme, était-ce dans son corps, était-ce hors de son corps, je ne sais, qui a été ravi au troisième ciel, et il a entendu des mots qu'il n'est pas permis de redire. » Je ne crois pas qu'il en parle en termes de charisme. Donc, c'est certainement, ça a l'air certainement du Saint-Esprit, hein, mais je pense que c'est une autre logique que la logique charismatique. Peut-être aussi parce que c'est fondamentalement individuel, enfin, en ce sens-là, l'expérience mystique est fondamentalement individuelle. Alors que le charisme, tel que Rick nous l'a présenté, il est très lié au corps.
Il est très lié au corps, ça c'est vraiment capital. Hein. C'est vraiment capital, ça doit édifier le corps. Oui ?
J'avais deux questions, je ne sais pas si j'aurai la place pour les deux. La première technique, selon votre conception de la relation entre le charisme et le corps, par le membre, du coup je ne vois plus trop la différence entre le charisme et la vocation.
Ah, très bonne question.
Puisqu'on pourrait dire après tout que c'est la vocation qui est au service du corps, puisqu'elle soit contemplative, apostolique, laïque, séculière. Voilà.
Ouais. Alors d'abord, chez Paul, les choses ne sont pas si nettement tranchées. Dans les listes de charismes, par exemple, il parle des apôtres. Alors, clairement, Paul il considère que son apostolat à lui, son caractère d'être apôtre, c'est une vocation. Bon, donc ça veut dire que Paul, lui, il ne fait pas tout à fait... c'est-à-dire qu'il ne va pas jusque-là dans ce degré de précision. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que... Donc moi, c'est que la vocation, ça nous oriente sur un état de vie. Donc c'est le choix d'un état de vie, consacré, marié, prêtre, clerc, etc. Alors que le charisme, c'est un don ponctuel qui est fait. Hein, par exemple, mon texte hein, que j'ai raconté tout à l'heure, ou par exemple un chant en langue, ou une interprétation, une parole donnée dans l'assemblée de prière, ou tout ce genre, c'est ponctuel. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas refaire ce don-là, mais c'est ponctuel. Donc ça ne se situe pas au même, ça se situe pas au même plan.
Mais les deux doivent édifier le corps.
Et les deux, exactement, tout à fait. Les deux doivent édifier le corps, exactement, ouais, tout à fait.
Ouais. Surtout là où je vois que ta question est pertinente, c'est que tu étais la semaine dernière avec le texte de Sainte-Thérèse.
Oui, je crois.
Tu vois, ça, elle disait, quand elle dit le corps, il y a les vocations, être missionnaire, être prêtre. On voit bien qu'elle jouait sur l'un et multiple.
Ouais.
Et elle a dit, mais ce qui contient tout, c'est la charité. Là, elle raisonne en termes de vocation.
Ouais, ouais.
Mais c'est la même problématique.
Et c'est la même problématique.
Avec les charismes, mais je suis d'accord avec toi, c'est un autre.
C'est un autre. Et en plus, là, enfin, je ne savais pas que vous avez étudié Sainte-Thérèse, enfin, texte de Sainte-Thérèse, mais au cœur de ces chapitres 12, 13, 14 de Saint-Paul, il parle des charismes, il y a chapitre
oui,
13.
Exactement.
Et l'hymne à la charité.
Mes yeux tombèrent sur l'apôtre, et je dis.
Dans une seconde question, aucune équipement incorrect. A-t-il d'être une question spéculative d'abord, j'ai une note. Pourquoi, du coup, le renouveau charismatique a-t-il commencé chez les protestants?
C'est eux qui ont la
Alors, moi, j'ai fait une thèse sur les protestants, je ne te dirai pas ce que Pernod a dit. Non, c'est une... Moi, alors... Là encore, on peut réfléchir aux différents
idées. C'est pas mal. Évoquer un souvenir personnel. Je dois être l'un des seuls ici à avoir fait deux confirmations dans ma vie. La confirmation protestante et après la vraie confirmation catholique.
D'accord.
Il y a un souci. Ah bah ils sont deux.
Mais à la suite de ma confirmation catholique. J'avais à peu près, c'était extrêmement diffus, difficile à mettre des mots dessus, et ça a pris petit à petit à comme sentiment émergé, mais j'avais le sentiment d'avoir reçu quelque chose que je n'avais pas reçu lors de la confirmation protestante. Je ne dirais pas, rétroactivement, qu'avec ma confirmation protestante, j'avais reçu le don de l'esprit comme les apôtres à Pentecôte. Du coup, sans le don de la Pentecôte par la confirmation, comment être là? Comment ressentir
l'effusion d'esprit? Alors, il y a plusieurs questions dans ton affaire, mais ce que je voudrais simplement dire à propos des protestants, dans le protestantisme, l'expérience authentiquement chrétienne fait partie du bien commun de l'Église. Ça, c'est vraiment un point capital. Hein. L'expérience authentiquement chrétienne fait partie du bien de l'Église, du bien commun de l'Église.
Alors, comment vous définissez authentiquement chrétien?
Eh bien, c'est aussi le discernement que pose l'Église catholique. Quand l'Église catholique, par exemple, accueille le renouveau charismatique, notamment dans certaines communautés, et qu'elle pose un discernement à son égard, notamment en leur donnant des statuts canoniques, eh bien, elle reconnaît que l'expérience vécue par ces gens-là, alors c'est un exemple, les statuts canoniques, c'est un exemple, mais il y a d'autres, j'ai cité d'autres documents du magistère, elle reconnaît que ce qui était vécu par ces gens-là, alors que ça vient du protestantisme, est un bien qu'elle peut accueillir elle aussi. Pourquoi maintenant est-ce que le Seigneur est passé, parce qu'on peut aussi se poser la question, pourquoi est-ce qu'il est passé par les protestants? C'est une vraie question. Alors ça, c'est la question qu'on pourra poser quand on sera dans le face-à-face et qu'on pourra le voir. Mais néanmoins, il y a une chose quand même qui peut... Il y a une chose qui, je peux réfléchir de cette manière-là. Je me dis que la grâce des protestants... J'ai commencé par dire la malédiction des protestants... Mais c'est une vraie malédiction, c'est d'abord d'être séparé de l'Église catholique, et d'autre part, d'avoir un organisme sacramentel blessé. Donc on peut dire plus que ça, mais en tout cas ça. Et pour eux, c'est une véritable malédiction. C'est-à-dire que pour eux, ce sont des obstacles réels à l'accueil de la grâce. Mais Dieu est puissant. Et comme si vous prenez une comparaison, si vous prenez quelqu'un qui est unijambiste, par exemple, il lui manque ses deux jambes, il va quand même bosser particulièrement de la deuxième jambe pour combler ce qui lui manque. Et bien, l'analogie, mon sens, consisterait à dire cela. C'est-à-dire que parce que les sacrements n'y étaient pas, chez les protestants, il y avait, en plus, parce que dans le protestantisme, il y a un certain nombre d'éléments qui sont vraiment bons, par exemple. Enfin, peu importe, mais il y avait, et je pense qu'il y a ça, cette espèce d'ardeur à avoir recherché ce qui doit conduire à l'unité, à l'union à Dieu. Voilà. Et moi, c'est comme ça que je mets ça sous cette manière. Donc, c'est une façon plutôt sympathique pour les protestants de considérer la chose. Mais cette interprétation n'est valable que parce que je considère que les protestants sont séparés de la vraie Église.
Merci beaucoup, Éric. Il y a un terrain qui s'appelle Eric, mais un truc chalangué, c'est-à-dire c'est parti. Merci à vous.